Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Loin du troupeau, tu t'en iras. Parce qu'il préfère la compagnie des bêtes sauvages et des grands arbres, Norman décide de plaquer sa vie paisible et confortable de retraité. Il jette son dévolu sur une cabane perchée au cœur d'un vieux chêne, perdu, dans la forêt de Gascogne. Loin de l'agitation malfaisante du monde, il espère retrouver le calme et la félicité d'une existence nourrie de contemplation et de plaisirs simples. Mais l'irruption de Laïla va bouleverser la vie du narrateur, autiste Asperger, qui a lutté toute sa vie pour dominer son syndrome. Tel est le départ du dernier roman de Jean-Christophe Gisbert intitulé « Laïla et moi sur un arbre perché » paru aux éditions Vérone. Bonjour Jean-Christophe Gisbert.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Vous portez un nom qui est connu, alors on doit souvent vous faire la réflexion.
Oui, c'est mon frère.
Et c'est dur à porter?
Non, c'est pas très dur. J'ai pas un ego suffisamment développé pour mal vivre le fait qu'on me dise « vous êtes le frère d'eux ». Ça me dérange pas.
Voilà.
J'aime mon frère, je partage pas toutes ses idées. J'aime certains de ses livres et moins d'autres, mais j'ai aucun problème avec ça.
Très bien, mais j'ai longtemps hésité avant
d'aborder
la question. Et vous avez rédigé des livres avec lui d'ailleurs.
On a fait deux livres ensemble, un livre sur les grandes figures de la gauche et un autre consacré au débarquement en Normandie. C'était à l'occasion du 50e anniversaire ou 60e, je ne sais plus, 60e anniversaire, et un livre qui a eu beaucoup de succès, qui racontait notamment, racontait le témoignage de mon père, qui était soldat américain et qui a débarqué le 6 juin au matin à Omaha Beach.
Ouais. Alors je vais donner quelques éléments à nos auditeurs sur votre biographie qui est riche. Alors, vous avez écrit sous deux noms de plumes différents. Alors, sous le nom de plume Norman Gisbert, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, vous avez publié donc plusieurs romans historiques consacrés à l'Amérique du 19e siècle et à l'Ouest américain en particulier, ainsi que des ouvrages donc relatifs au débarquement en Normandie, comme vous venez
Absolument.
De le préciser. Vous éprouvez en effet, une fascination pour les États-Unis que vous qualifiez d'être votre deuxième patrie.
Absolument.
Voilà.
Ouais.
Et votre père, donc, est d'origine américaine.
Mon père était américain et je suis moi-même franco-américain puisque j'ai un passeport. J'ai également un passeport américain et j'y tiens beaucoup.
Alors, parmi ces ouvrages, il y a Arizona Tom, paru chez Héloïse d'Ormesson donc en 2013, qui a été récompensé par plusieurs prix, mais j'ai surtout retenu le prix du livre d'hiver de Montgiscard.
Mmh. Hein.
Vous avez écrit également Omaha en 2014 et un certain nombre d'autres ouvrages. Alors, sous la plume, sous le nom de Jean-Christophe Gisbert, vous avez écrit... on pourrait qualifier ça d'une trilogie, Les Moulins d'Amérique. Le héros du 6 juin, qui justement a été écrit avec votre frère. Les grandes figures de la gauche dont vous nous avez parlé. Alors, je voulais savoir, quand on écrit, pourquoi on prend un pseudo?
Alors, c'est une histoire assez singulière. J'ai rien contre mon prénom et contre mon nom de famille. Mais à un moment, on m'a conseillé de me rapprocher des États-Unis en me disant « Les Moulins d'Amérique, c'est très américain, c'est vraiment écrit à l'américaine, tu devrais aller à New York et rencontrer des agents littéraires ». Sachant qu'aux États-Unis, on n'adresse pas son manuscrit à un éditeur, c'est interdit par la loi pour une question de protection des droits d'auteur, on est obligé de passer par un agent littéraire. Et je rencontre un agent littéraire qui me dit « Bon, moi ça me plaît bien, je suis prêt à financer la traduction, mais il y a quand même un problème, Jean-Christophe, ça ne marche pas, c'est trop français ». entre ceux qui penseront que vous êtes une femme et ceux qui pensent, parce que Jean c'est un prénom féminin, et Jean-Christophe qui écrit sur les États-Unis, ça n'a pas du tout « changez-moi votre prénom ». Et donc, j'étais dans son bureau, Scott, j'ai des origines écossaises, Scott Gisbert, Norman, tiens, je suis né en Normandie, Norman, parfait, Norman. Et puis, me souvenant que le nom d'origine de la famille, c'était non pas Gisbert ou Gisbert, comme on le dit, mais Ginsberg, je me suis permis de le reprendre et c'est devenu Norman Ginsberg. Malheureusement, pour diverses raisons, les difficultés qu'a rencontré cet argent littéraire, les livres n'ont pas été publiés aux États-Unis. Oui. Je suis donc resté comme de ronflant avec le pseudo de Norman, que j'ai finalement laissé tomber pour écrire Leïla et les deux autres romans qui sont en cours.
Voilà. Et alors donc, précision pour nos auditeurs, effectivement, le nom et le prénom du héros du livre, c'est Norman Gisbert.
Absolument.
Ouais. Voilà, très bien.
Donc c'est peut-être un peu moi, oui. Voilà.
Alors voilà, on se doute un petit peu et on finit par faire le rapprochement.
Voilà. Ouais.
Alors revenons à votre dernier ouvrage, qui est un peu en rupture avec les précédents, finalement. Alors, en le lisant, je me suis posé un certain nombre de questions pour essayer de le qualifier en disant, mais... qu'est-ce que c'est cet ouvrage ? Alors, polar, fable de La Fontaine, éloge de la misanthropie, ode à la communication avec la nature, exercice original de promotion du Gers, incitation nietzschéenne à rompre les amarres, symphonie bucolique inachevée ou détournée, une histoire immorale, une apologie de la loi du talion et de la vengeance, un essai critique sur la société, une dénonciation du viol ou un zoo pour zèbre improbable. Alors, c'est peut-être tout cela en même temps. Nous allons essayer de voir ça avec vous. A priori, vous le qualifieriez de quelle manière ?
Écoutez, j'aime beaucoup ce que vous en dites. Vous me faites rougir parce que c'est vrai que c'est probablement un peu tout ça. Très modestement, c'est un peu dans tous ces exercices que je me suis aventuré. Je crois que ce livre, s'il fallait, puisque on parle beaucoup d'animaux, il fallait le comparer à un animal. Je dirais qu'effectivement, c'est un zèbre.
C'est un zèbre et un improbable.
Ouais, improbable.
Improbable. Ouais. Alors dans ce roman. Il y a une histoire, c'est clair. Alors, c'est toujours pareil, quand on parle d'un roman, je fais toujours attention de ne pas dévoiler l'intrigue trop précisément. Mais ce qui est très intéressant dans votre roman, c'est qu'il y a un certain nombre de messages forts et, dont on sent que ce sont des préoccupations du personnage et par extension de l'auteur. Et alors... On sent bien qu'il y a un axe qui tourne autour de la solitude, un autre autour de la nature, et un autre finalement du ras-le-bol, quelque part. Alors, en exergue de votre roman, c'est ce que j'ai lu au tout début de l'émission, « Loin du troupeau, tu iras ». Donc, ça c'est une phrase de Henri de Monfred. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement qui est Henri de Monfred ?
Alors Henri de Monfred, c'est un personnage assez sulfureux qui a eu, on va dire, plusieurs vies, qui est parti en Orient et notamment autour de la mer Rouge. Et il a été mêlé à un certain nombre de trafics et notamment des trafics d'armes. On dit même, mais là il n'y a pas vraiment de preuves là-dessus, qu'il se serait livré à de l'esclavage, au trafic d'esclaves. Et qui a rapporté 2-3 livres, pas plus, de son périple, mais qui décrit vraiment sa vie d'aventurier de manière extraordinaire et qui a fait tout ce parcours parce qu'il se sentait mal. Il était promis vraiment une grande réussite en France. Il se sentait mal dans la société. Il avait besoin d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'adrénaline et puis découvrir de nouveaux paysages. Et effectivement... il dit cette phrase « Loin du troupeau, tu t'en iras ». Et c'est une phrase dans laquelle je me suis reconnu parce que pour des raisons personnelles, j'ai passé une grande partie de ma vie à tout faire pour être dans le troupeau. Et arrivé à un certain âge, au moment où on prend un peu de recul, moi j'ai tendance à dire que la vie, c'est pas une ligne droite ni une ligne accidentée, c'est une roue. Et une roue, elle retombe toujours, elle s'arrête toujours à l'endroit où elle est la plus lourde. Et avec l'âge, après avoir vraiment passé toute ma vie à me consacrer à la réussite professionnelle, au travail, à me fondre autant que je le pouvais dans la société en faisant des risettes à des gens dont je pensais pas beaucoup de bien, eh bien tout ça finalement je l'ai jeté à la rivière et effectivement j'y retrouvais ma nature originelle qui est d'aller loin du troupeau.
Alors c'est ce sentiment qui habite le personnage principal du roman, et c'est, je dirais, à partir de cette constatation que toute l'histoire va se dérouler. Alors, moi qui ai lu le roman, un petit clin d'œil à vous-même et aux auditeurs qui vont être surpris par la question que je vais vous poser, c'est de savoir si, bon, on voit votre appétence à vivre un petit peu en recul, je voulais savoir si vous habitiez dans une cabane.
J'habite dans une ancienne ferme que j'ai retapée, avec des terres autour, un bois, une mare, des animaux. J'éprouve... Alors, les gens trouvent que j'ai parfois une grande appétence pour la solitude, mais je ne sais pas ce que c'est que la solitude. Si la solitude, ça doit être perçu comme une sorte de mal-être. Moi, je suis jamais seul. Je ne suis jamais seul parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, je dialogue avec mes animaux, je dialogue avec mes arbres, avec les plantes que j'installe dans mon jardin, etc., etc. Et donc, oui, effectivement, il y a une forme de solitude, ou en tout cas la volonté de ne pas perdre son temps à vivre dans le brouhaha, la vanité des gens et des choses, effectivement.
Alors, on a bien compris, effectivement, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et comment vous est venue l'idée de ce roman? Alors, au-delà peut-être de cette idée principale, ou d'une de ces idées principales qui consiste à dire que, bon, il vaut mieux être loin du troupeau. Au niveau de la trame, du montage de l'histoire, comment c'est venu?
Alors, j'avais, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez exprimé de manière assez subtile, en réalité, j'avais envie de dire non pas mon dégoût, mais j'ai effectivement un côté un peu misanthrope. J'avais envie d'écrire là-dessus. Mais surtout, plus que le rejet de la société, c'était mon amour de la nature. Mais faire 300 pages sur l'amour de la nature, je ne m'appelle pas Emerson, je ne m'appelle pas Thoreau, je ne me voyais pas forcément me lancer dans cet exercice, et j'ai eu, c'était une sorte de pastis gascon, avoir une couche d'intrigue. Et à travers une rencontre complètement improbable entre le vieux ronchon qui est le personnage et puis cette jeune beurre, Laïla, 17 ans, avec qui vont partager une grande histoire d'amitié. Donc voilà, j'adore superposer les histoires. Il y en a plusieurs, ce que vous avez parfaitement décrit tout à l'heure. Et donc, au départ, l'idée, c'était quand même de dire... Il y a des choses tellement plus importantes dans la vie que la réussite matérielle. Il y a la nature, il y a les animaux. Et je parle beaucoup, beaucoup d'animaux dans ce livre.
Alors, vous parlez beaucoup d'animaux et vous parlez effectivement de la nature. Alors, la nature, c'est vous communiquez avec elle, vous communiquez, vous parlez avec les arbres, vous communiquez de la même façon avec les animaux. Et alors, je voudrais peut-être lire un petit extrait, juste pour faire la liaison entre la nature et la solitude qui ne vous gêne pas. Il y a une phrase que j'ai bien aimé et puis qui résume bien ce que vous venez de dire, il disait que le secret d'une bonne vieillesse n'est rien d'autre que la conclusion d'un pacte honorable avec la solitude. Et ça, effectivement, on sent que c'est tout le personnage qu'il a décidé de vivre selon ce principe. Et chemin faisant, vous expliquez son appétence pour la nature, et on se voit finalement amené, et c'est la réflexion que j'avais en disant, mais tiens, il est en train de nous écrire, pas un manuel écologiste, mais son amour pour la nature.
Hein ? Oui, tout à fait. Après, comme je disais tout à l'heure, la solitude, pour moi, c'est un puits sans fond, c'est d'une richesse incroyable. Alors j'ai toujours un petit peu, j'ai un petit peu de mal. Alors je sais que j'ai une solitude heureuse, pour beaucoup la solitude est triste, elle est désespérante, mais tant qu'il y a de la nature, pour moi c'est le bonheur. Et alors j'ai une particularité aussi, c'est que mon humeur est indexée sur le soleil, donc vous doutez que j'ai passé un très bel été, parce que je suis effectivement photovoltaïque, c'est-à-dire je marche avec à l'énergie solaire. Et moi j'ai l'impression, et c'est une des réalités que j'ai vraiment pu sentir ces dernières années et que je développe, que je suis une partie de la nature, une toute petite partie, et qu'effectivement, sans être un écolo, hein, j'adore les moteurs thermiques, etc. Donc c'est pas très écolo. Sans être un écolo, j'ai quand même envie de dire aux gens, mais soyez conscients que vous êtes un de ces éléments, et à partir de là, protéger toute vie. Moi, par exemple, dans ma propriété, je ne tue pas un seul animal, pas un seul animal. Les fourmis sont protégées. D'autant depuis que j'ai lu ce livre extraordinaire de deux chercheurs toulousains qui s'appelle L'Odyssée des fourmis. Voilà, tout est la nature est quelque chose de sacré. Et ça, cette conviction, je me la suis je dirais, construite toute seule, et aussi avec l'aide des philosophes quand j'étais plus jeune, et aussi, et surtout, en m'imprégnant de culture indienne américaine. Les Premières Nations américaines, j'ai envie de dire les vraies, ont cette culture du respect de la nature qui est absolument extraordinaire, au point de s'excuser auprès d'un animal lorsqu'il le tue, etc. Et cette espèce de fusion et cette conviction que les esprits sont dans les êtres et également les choses, y compris les pierres, etc., c'est quelque chose que je partage. Je suis profondément croyant et ces éléments-là font partie de ma croyance.
Alors, on est dans une explication, effectivement, par rapport à une croyance profonde, hein, par rapport à des convictions. Et alors, pour situer un petit peu pour les auditeurs, la mise en pratique, c'est le fait, pour le personnage principal, pour Norman, c'est de dire, je vais partir vivre dans les bois, et je vais partir vivre dans une cabane au milieu des... Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est Charlie ?
Charlie, c'est un personnage, sauf que c'est pas un être humain, c'est un arbre. Mais c'est un arbre qui a connu, qui est très vieux, qui a 700 ans, si je ne m'abuse, 600, 700 ans, qui a tout connu, qui a connu Louis XIV, qui a connu la Révolution, qui a connu Napoléon, qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un chêne rouvre absolument magnifique. Au cœur duquel il y a cette cabane et il s'appelle il a le nom de Charlie que lui a donné l'ancien propriétaire qui était un grand admirateur de Gaulle et les intimes dont j'étais pas appelé de Gaulle Charlie. Enfin, il appelait entre eux, pas avec lui.
Oui, voilà. Et alors, donc, les lecteurs verront et noteront aussi que Tante Yvonne, oui, figure aussi parmi les personnages, si on peut
absolument
dire.
Absolument.
Voilà. Alors, avant de faire une petite pause musicale, je voulais que vous nous parliez de la bande son. Parce que j'ai beaucoup apprécié, effectivement, qu'à la fin de votre livre, vous ayez fait un récap. On est dans la musique, et on est dans la musique, j'allais dire, big band, hein, générationnelle, qui correspond à la musique caractéristique de l'époque de Laïla, hein, d'aujourd'hui, et une musique des papy boomers de notre génération, finalement. Alors, expliquez un petit peu.
Mais, la raison est simple, quand j'écris un livre, j'écris toujours en musique. Moi, j'ai pas besoin de prendre de drogue pour écrire. Ma drogue, si j'en ai une, c'est la musique. Et j'établis des liens entre ce que je décris et la musique que j'écoute à ce moment-là. Et je trouve que c'est intéressant de citer ces artistes et de permettre aux lecteurs qui le souhaiteraient d'aller trouver le lien sur telle ou telle chanson qui est évoquée. Il y en a quelques-uns, là, notamment des artistes américains qui sont pas très connus en France, mais qui ont des textes absolument savoureux et que je répertorie dans ce livre, effectivement.
Voilà. Alors, pour avoir un petit avant-goût de cette bande, j'ai choisi pour notre première pause musicale Party de Beyoncé.
Ouais. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag sauce, you drip the swag goo. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag sauce, you drip the swag goo. Oh. I may be young, but I'm ready.
Resemble Sade, imported her in from Raleigh and pulled up into the valet. The boy dropped the keys, trying to sneak a peek at that body. See, this that time of the week, she like to freak a leak and get naughty. Therefore, I like to thank God and Ice Cube for Friday, cause la-di-da-di.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Gisbert pour son dernier roman « Laïla et moi sur un arbre perché » paru aux éditions Vérone. Alors, revenons donc au deuxième grand sujet, la nature. La nature, on comprend que ça va être un refuge, l'alternative. Et il y a donc la décision de dire « je pars ». Je pars quelque part parce que ras-le-bol.
Ouais.
Alors, je lis encore un petit extrait parce que c'est... « Je voulais rompre avec ce monde que je vomissais, mais dont eux s'accommodaient, en parlant de vos amis. Je les entendais me dire « Voyons Norman, à 64 ans, on n'en voit pas tout balader comme on le fait à 20 ans, quand la fièvre de la rébellion vous boursoufle le cœur comme des boutons d'acné sur le menton. À cet âge-là, on se repose. » On voyage, on fait des risettes à ses petits-enfants, on parle du bon vieux temps autour d'un confit de canard arrosé d'un solide corbière. Lors aurais-je dévoilé les motivations réelles de ma résolution qui les aurait mises sur le compte d'une dépression passagère. Voilà.
Voilà.
Voilà. Donc, des raisons qui ne sont pas forcément compréhensibles par l'entourage.
Absolument, c'est... Des motivations. Alors effectivement, moi j'ai souvent eu cette aspiration. Alors je l'ai un peu réalisé aujourd'hui en vivant à la campagne, mais c'est parfois difficile de communiquer là-dessus sans être vu comme un misanthrope chevronné. La réalité, c'est qu'effectivement, bon, je vis de la société quelque part, hein, puisque encore aujourd'hui, je conseille des entreprises, mais j'ai vraiment ce besoin de solitude au cœur de la nature comme je vis aujourd'hui.
Alors, comme vous le dites, vous vivez dans la société, de la société. Mais alors, je veux dire, Norman, qu'est-ce qui lui met à la société ?
Oui.
Alors, je veux dire, donc... Norman, il en a marre, il en a ras-le-bol. Et pour justifier son ras-le-bol, il nous explique « Marre des oracles rouges, verts ou bruns, de leur doxa à la noix dont s'abreuvent les médias. Marre de l'hystérisation collective qui lobotomise les débats publics. Marre de la dictature des minorités. Marre de Plenel, Zemmour, BHL, De Haas et consorts, marre de tous ces ayatollahs des bien-pensances de droite ou de gauche, marre des tenants de la théorie du genre, des véganes, des gilets jaunes, des black blocs, des gauchos, des fachos, des professionnels de la contestation, CGT en tête, marre des altermondialistes, des ultralibéraux, des souverainistes, des anticapitalistes et des chantres de la décroissance. » Marre des snobillards parisiens aux manettes du pays, pour qui tout provincial n'est qu'un bouseux attardé. Marre des Le Pen et Mélenchon qui se gobergent de leurs saillies populistes grotesques. Et on pourrait encore continuer comme ça.
Ouais, et ben, s'il fallait réécrire aujourd'hui, je réécrirais exactement la même chose.
Voilà.
Alors ça, effectivement, j'ai beaucoup de mal avec la société... la vie politique actuelle, je suis consterné. Vous voyez, encore aujourd'hui, quand on entend Sandrine Rousseau répondre à Fabien Roussel du Parti communiste, qui avait dit, je suis pas communiste, loin s'en faut, mais Roussel a dit qu'il fallait que la gauche ne soit plus la gauche des allocs et des minima sociaux. Bravo. Et je signe dès demain. Que lui répond cette en douille de Sandrine Rousseau, la valeur travail est une valeur de droite. Mais qu'est-ce que... Il faut vraiment être ou complètement stupide ou suffisamment pervers pour se dire avec ça je vais faire le buzz. Dans les deux cas, c'est absolument navrant, désolant. Et moi, effectivement... Vous voyez, Philippe, je vais vous donner une illustration. J'avais pour habitude sur Facebook de faire des commentaires politiques qui me valaient des... Bah, je dirais, beaucoup de saluts amicaux de gens qui les partageaient, puis parfois de temps en temps, évidemment, de critiques. J'ai plus envie de commenter la vie politique tellement je la trouve nulle. Elle est nulle en France, elle est probablement nulle partout dans le monde. Mais je vis en France et je suis consterné. Et je veux dire, politiquement, évidemment, j'ai des convictions. Moi, je viens au départ de la droite du PS, hein, Michel Rocard. Et puis après, ben, j'ai probablement avec l'âge, on a une tendance à aller vers la droite. Mais je suis consterné par les gouvernements qui se sont succédés depuis 60, 70 ans. C'est une catastrophe, l'état dans lequel la France se trouve aujourd'hui. Avec des, vous voyez, c'est ce qui se passe avec le nucléaire. Et je vous donne un exemple qui me fait souffrir. Un seul exemple dont tout le monde se fout. Aujourd'hui, en France, vous avez chaque année 300 à 400 000 vaches laitières qui disparaissent parce que les paysans ne s'en sortent plus et parce que le prix leur est acheté par les grandes surfaces à des tarifs mais minables, scandaleux. Et que ne fait-on dans ce pays pour sauver l'agriculture en imposant aux grandes surfaces un prix minimum permettant aux paysans de vivre? Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on répète ça et on ne le fait pas. Donc ce qui m'agace, si vous voulez, au-delà de ce que je décris sur les doxas stupides de Mélenchon, Rousseau, l'extrême droite, etc., parce que pour moi c'est pareil, hein, l'extrême droite et Mélenchon, Le Pen, pour moi c'est la même limonade. Hein. Eh bien, franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est pas possible. C'est... Non seulement ils sont stupides, démagogues, mais quand ils sont aux affaires, quels qu'ils soient, ils échouent. Regardez la grande faillite du nucléaire, qui était vraiment une grande fierté française. Tout ça me révolte. Vous voyez, là, je me laisse aller. Je ne devrais pas. Et c'est la raison, c'est mauvais pour mon cœur, qui d'ailleurs va très bien. Merci pour lui. Mais vous voyez, ça, je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Et donc, plutôt que de perdre mon temps à commenter, à écouter ces gens-là, eh ben, je préfère, effectivement, poser ma paume d'une main sur un arbre et lui dire « Courage, la pluie arrive, elle va venir, ça va aller mieux, etc. » Je suis fait comme ça, et ça, c'est ma vraie nature. Autant vous dire qu'il ne faut pas compter sur moi pour conseiller des hommes politiques, même si ça m'est arrivé de le faire par le passé.
Alors Norman, effectivement, rejette et est dépité par la politique, n'y voit plus aucun avenir, mais il est aussi dépité par beaucoup d'autres choses, et on aurait même peut-être tendance à penser qu'il est un peu dépité partout, parce que quand il rajoute « marre de l'indifférence qui noie les migrants en Méditerranée, marre de la déchéance de la langue française outragée par les écrivains nombrilistes adulés par le bocal germano-pratin », marre du détricotage des valeurs telles que le travail, l'abnégation, la tolérance, etc. Ça, on en a parlé. Ça veut dire que finalement, il n'y a plus rien à faire dans n'importe quel domaine pour Norman.
Alors, je n'irai pas jusque-là. J'ai 4 enfants, je discute avec eux. Je me garde bien de projeter sur eux le regard très noir que je porte sur la société, parce que je pense que pour toutes les générations qui s'en vont, c'était mieux avant. Hein, vous connaissez cette ère-là. Ceci étant, j'estime qu'il est de mon droit de ne pas me reconnaître dans cette société. Je veux dire, je suis effectivement attaché à quelques valeurs qui, pour moi, n'ont rien de ringard. Le travail, l'abnégation, la tolérance, le sens de l'accueil de l'autre, etc. Voilà, ce sont des valeurs qui, pour moi, restent très fortes et dont je regrette qu'elles disparaissent, parce que je pense que la France ne pourra pas survivre au détricotage qu'elle est en train de vivre si elle ne pourra pas préserver son modèle social si elle ne continue pas à fabriquer de la richesse. Et pour fabriquer de la richesse, il faut du travail, il faut de l'abnégation, il faut de l'audace, et je ne trouve plus beaucoup de tout ça dans la société.
Alors, à ce point...
Désolé pour ce coup de gueule, on peut parler d'autre chose.
Alors, mais... Non, c'est très bien, parce que dans ce que vous expliquez et dans ce que vous justifiez, entre guillemets, c'est le personnage de Norman. Bon, il a fait le tour des choses de la vie en société, et il se retire quelque part. Hein, c'est une retraite sylvestre.
Ouais.
Hein. Et donc... ce qui est particulièrement intéressant, et j'insiste là pour les auditeurs, c'est que, arrivé à ce stade du roman, ben, comme je disais tout à l'heure, Jean-Christophe Gisbert, il est parti pour nous entraîner dans une petite symphonie bucolique, dans sa retraite sylvestre, dans son amour des arbres, etc. etc. Mais bientôt, on sent, il y a quelques petits indices, qui nous disent, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, c'est quelque chose qui est surprenant, et c'est là qu'il y a toute la dimension, je dirais, romanesque et inattendue de votre ouvrage, c'est qu'il y a un personnage qui apparaît qui s'appelle Layla. Alors, Layla, c'est qui ?
Layla, c'est ce qu'on appelle communément une beurette. Elle est originaire du quartier du Mirail. C'est une fille, brute de fonderie, qui est extrêmement attachante, vive, intelligente. Bon, un peu en marge s'agissant du respect de la loi, hein, puisqu'elle est impliquée dans des trafics de drogue. Mais le choc entre Norman et Layla va être terrible, parce que c'est vraiment deux univers, deux cultures, deux époques différentes. Et malgré tout, il va se passer... Alors, c'est pas du tout une histoire d'amour au sens où on peut l'entendre, mais c'est de l'amour filial, c'est de l'amour amitié très très fort entre les deux. Et elle va entraîner... Alors, je donne pas trop de détails, mais elle va entraîner Norman, ou plutôt Norman va se laisser entraîner par amour de Layla dans une épopée sanglante de règlement de compte qui va le sortir effectivement de ce que vous appelez très joliment... sa retraite sylvestre.
Alors, il y a beaucoup de personnages dans ce roman. Il y a donc Mouloud, Hakim et Kevin, qui sont, je dirais, les protagonistes à partir desquels va se construire l'histoire et le drame, si on peut dire. Il y a Pascal au bistrot. Alors, ce Pascal au bistrot, c'est qui ?
Alors, Pascal au bistrot, c'est un personnage que j'ai connu dans ma vie de journaliste, que j'avais interviewé, qui est un ancien légionnaire au passé, on va dire, douteux. On va s'apercevoir à la fin du livre que, bah, vraiment, du point de vue de la moralité, ça laissait à désirer. Et il s'appelle Pascal, et au bistrot, parce qu'il passe son temps à se murger au comptoir du petit café de Castéra Verduzan. C'est un personnage, mais en même temps très attachant. Tous les personnages, je m'arrange pour que, même quand je leur mets un coup de scie, je finis par les montrer sous un bonjour. Quand au contraire, je les présente comme étant très positifs, bah, y a quelque chose qui les fait apparaître comme des monstres. Il y en a qu'un qui échappe à tout ça, c'est Eusebio, ce personnage improbable qui surgit au beau milieu de la forêt et qui est, à mon avis, un petit peu le passeur de temps entre les différentes époques, puisqu'il a tout connu, à commencer par la Seconde Guerre mondiale.
Alors donc, et Pascal au bistrot est un fan de Rod Stewart.
Absolument. Et absolument. Moi aussi d'ailleurs.
Alors on l'a bien compris, et on a choisi Rod Stewart pour la deuxième pause musicale.
Super.
I am dying forever.
Paroles d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Christophe Gisbert pour son dernier roman, Laïla et moi sur un arbre perché, paru aux éditions Vérone. Alors, Jean-Christophe, malgré, je dirais, son expérience, malgré son âge, finalement, Norman va se laisser prendre dans un engrenage. De quelle manière un homme d'expérience, qui a du recul a priori sur la vie, peut-il se faire entraîner de cette manière ?
Je vous retourne la question. Non, je pense simplement que c'est par amour. Un amour, encore une fois, filial, l'amour d'un sorte de père adoptif pour cette fille. Il se laisse complètement embobiner à faire des choses qui sont contre ses valeurs, contre ce qu'il a l'habitude de faire. Mais cette gamine est tellement attachante, tellement malicieuse, drôle, touchante, que voilà, il a beaucoup de mal à résister. Et puis il est à la fin de sa vie, il est passé à travers des cancers, c'est compliqué, et donc finalement, pourquoi pas, quoi. Ah, why not, hein.
Et alors en même temps, il se pose beaucoup de questions, mais on sent que par rapport à cet engrenage, par rapport à cette aventure dans laquelle il est jeté, il est à la recherche de références, il aurait besoin qu'il y ait des gens autour de lui qui adhèrent. Donc il réunit un conseil de famille que je vous laisse un petit peu décrire.
Oui, alors il... Il réunit effectivement un conseil de famille. Alors, il y a deux. Il y a le conseil de famille. Vous voulez parler de la réunion à Toulouse ?
Non. La réunion, quand il parle à ses parents.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Alors, effectivement, Norman a cette particularité de communiquer avec ses parents qui l'ont quitté il y a bien longtemps. Et effectivement... ses parents tentent de le dissuader de s'embarquer dans une telle histoire, parce qu'avec leurs mots à eux, avec leurs propres valeurs, il va passer outre, quoi. Donc, je me rappelle plus exactement des phrases que j'ai utilisées pour rappeler ce que disent ses parents, mais c'est la façon dont mes parents parlaient.
Voilà. Et alors, il y a les parents. Dans le cadre de référence, si on peut dire. Et puis, il y a Charlie.
Alors oui, il y a aussi les ancêtres, hein, qui vont venir, hein, les grands-parents, etc., etc. Et Charlie, parce que cet arbre parle également. Et en tout cas, il émet des ondes que Norman sait traduire en mots à sa manière. Et donc, il consulte tous ces gens-là, et tout le monde lui explique que c'est du grand n'importe quoi. Et finalement, donc, il va passer outre et exposer sa vie à des dangers réels.
Alors, une fois qu'il s'est laissé embarqué, on voit qu'il y a un point de non-retour. Et ce point de non-retour, finalement, il finit par l'assumer.
Complètement. Vous savez, quand vous avez vécu de grandes épreuves à travers tout au long de votre vie, vous vous dites, finalement, une de plus, pourquoi pas, j'ai vaincu les autres, pourquoi je n'arriverai pas à vaincre celle-là. Donc, il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au moment où, effectivement, il va décider de s'enfuir, mais ça, c'est une autre histoire.
Exactement. Alors, au-delà de l'histoire, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un certain nombre de messages, et au détour de la confrontation entre Laïla, le monde de Laïla, et le monde de Norman, il y a des échanges au cours desquels les deux protagonistes apprennent beaucoup l'un sur l'autre et sur le monde de l'autre aussi.
Absolument, c'est-à-dire que Norman avait sur Laïla les a priori qu'elle-même pouvait nourrir sur l'univers, hein, du, de Norman, bourgeois, un peu intello. Et finalement, je vais montrer que ces deux univers incarnés par les deux personnages, ben, ils arrivent à communiquer, ils arrivent à se comprendre. Alors, ça peut être un message pour dire que, à ceux qui jugent un peu trop vite les jeunes des banlieues, bah, il faut peut-être essayer de creuser, de comprendre, avant de porter des jugements définitifs. Voilà.
Parmi les choses qu'apprend Norman, il y a une expression qui m'a beaucoup plu, c'est l'amortisseur social dans les banlieues.
Oui, absolument. Mais là, c'est des choses qui ont été racontées par un éducateur de rue d'origine kabyle qui a pris sa retraite là, il y a quelques années, et à qui je posais la question un jour, mais... Alors, je ne vais pas donner son prénom parce qu'il est connu à Toulouse. Je lui dis, mais pourquoi ça n'explose pas? Parce que ça. Il ne travaille pas, etc. Il me dit, mais le système est prévu, a tout prévu. On arrose avec des aides sociales, on laisse faire l'économie souterraine, et en échange de quoi? Bah, y a pas d'émeute dans les banlieues. Ça m'avait heurté, surtout de la part de quelqu'un qui, politiquement, était encarté au Parti Socialiste. Je ne veux pas en dire trop, et militer à l'aile gauche du Parti Socialiste. Oui. Voilà. Et effectivement, c'est un des éléments qui explique la relative, hein, très relative, le relatif calme des cités et le fait qu'il n'y ait pas de violence terrible, de poussée de violence, comme on le connaît dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis.
Alors là, vous parlez de l'aspect, je dirais, régulation par la société, par les aides. Mais il explique aussi que c'est par un autre système. À en croire Laïla, si les banlieues ne s'enflamment pas, c'est grâce aux frics que les caïds de la CAM distribuent sans compter.
Aussi.
Voilà.
Et ça, c'est une réalité, hein, connue par tout le monde, reconnue par un certain nombre de chercheurs, ceux qui font pas l'autruche, qu'effectivement, tous ces caïds qui brassent non pas des centaines de milliers, mais des millions d'euros, ben, y a un effet redistributif qui permet à certaines familles d'être à l'abri, ne serait-ce que parce que dans les réseaux de trafic de drogue, il y a un certain nombre de fonctions mineures qui permettent d'être rétribuées tout à fait confortablement. Je ne découvre rien, je n'apprends rien. Tout ça est un système rodé qui existe depuis très longtemps. Et ça participe d'une sorte de glacis qui fait que bah, ça va à peu près, quoi. Ça, jusqu'au jour où ça n'ira plus.
Voilà. Alors à cet égard, je recommande aux auditeurs de s'attarder sur le passage consacré au Jeff Bezos de Gaillac, qui est vraiment truculent.
Ouais.
Alors, je voulais vous demander, la fin du roman, on ne va pas la dévoiler, ça restera énigmatique pour les auditeurs. Simplement, je voudrais relire un petit peu ces deux phrases pour dire aux auditeurs que s'ils les écoutent bien, ils retrouveront beaucoup de choses après l'avoir lu. « Loin du troupeau, tu iras », recommandait Henri de Montfred. « Loin du troupeau, je suis parti et jamais je ne reviendrai ». Jean-Christophe Gisbert, le prochain roman, c'est quoi ?
Le prochain roman, il est bouclé, il est... Alors, je ne peux pas donner le nom de l'éditeur, mais parce qu'on n'a pas encore contractualisé, mais on est tombé d'accord, c'est une très belle maison d'édition. Il a pour thème les nains de jardin.
Tout un programme.
mais encore une fois, où j'essaie de mêler, j'essaie de faire rire quand même. Voilà. Pour moi, l'écriture... C'est ce qui traduit le mieux mon ambitieux dans l'écriture, c'est de prendre le lecteur par la main et de l'emmener sur les chemins et lui faire prendre de fausses pistes, le faire revenir en arrière, lui faire découvrir des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Et c'est un peu le même esprit que j'ai adapté pour ce livre qui sortira à la... Alors je peux donner le nom, il s'appelle « Le démerdeur ».
Parfait, merci beaucoup. Nous l'attendons avec impatience. Donc merci Jean-Christophe Gisbert pour ce roman « Laïla et moi sur un arbre perché », je le rappelle, aux éditions Vérone. Merci encore, au revoir.
Merci Philippe Gilbert.